Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM spéciale législative 2017. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons d'écouter 20 minutes de vos candidats sur les 10e et 6e circonscriptions de l'Isère. 6e et 10e circonscription de l'Isère qui nous a permis de rencontrer presque une vingtaine de candidats. Et aujourd'hui, nous rencontrons Joël Huillier et son suppléant Thierry Girard, donc candidat pour le Parti Socialiste sur la 10e circonscription de l'Isère. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci donc d'être venu nous voir. Entame classique maintenant pour ce petit format législatif. Je vais vous demander à chacun de vous présenter. Alors, Madame Huillier, vous êtes la députée en place. On vous connaît déjà, très certainement, mais peut-être tous nos auditeurs, pas tout à fait. Alors, je vais vous demander de vous représenter. Qui êtes-vous ?
Alors, bonjour, je m'appelle Joëlle Huillier. Je suis, comme vous le dites, la députée sortante. Je suis membre du Parti Socialiste et c'est à ce titre-là que je me présente pour un renouvellement de mandat. Je suis retraitée de la Sécurité sociale où j'ai travaillé toute ma vie. Donc, je connais bien ce qu'est les difficultés qu'on peut avoir au travail. Je sais aussi ce que sont les fins de mois difficiles puisque j'ai commencé à travailler à 16 ans avec, bien évidemment, un tout petit salaire. J'avais des enfants et donc je peux compatir à certaines situations. Et à mon avis, la pauvreté, c'est un des éléments qu'il faut absolument combattre. Ceci étant, je suis députée depuis 5 ans. Je crois que j'étais extrêmement présente sur le territoire. On parle même dans certains journaux d'omniprésence sur le territoire parce que je crois que ce territoire, il faut le faire vivre et ce territoire ne vit que parce qu'il a des habitants, des bénévoles et bien évidemment des élus locaux qu'il faut soutenir tout au long de leur carrière.
Merci. Monsieur Girard.
Alors voilà, je me présente, Thierry Girard. Je suis originaire d'un petit village à côté de la Tour du Pin, Salmandine, et je suis depuis maintenant 20 ans après ça, dans l'est de cette circonscription où j'ai été maire, je suis aujourd'hui conseiller municipal. Et puis au niveau de mon activité professionnelle, ça fait bientôt 30 ans que je travaille dans une grande banque du monde rural et agricole, un peu verte si vous voyez ce que je veux dire, et où j'exerce beaucoup de responsabilités au niveau syndical, avec des responsabilités locales et aussi des responsabilités nationales. Et tout ça m'a conduit à deux responsabilités supplémentaires et qui sont en lien avec l'agriculture et le monde rural, puisque je suis membre du bureau de la Chambre d'agriculture de l'Isère, élu à la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, et là où je regroupe et je retouche l'activité qu'il y a eu professionnelle et qu'il y a eu aussi dans son mandat Joël, c'est dans mon mandat de premier vice-président de la MSA des Alpes du Nord, c'est-à-dire le régime de protection sociale du monde agricole, si je le fais court. Guichet unique, c'est-à-dire tous les risques liés à la protection sociale, MSA des Alpes du Nord, qui est sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis je suis très heureux d'accompagner Joël dans ce challenge et ce, je l'espère, nouveau mandat, puisque je me retrouve tout à fait dans les valeurs de Joël, qui sont mes valeurs aussi, celles du Parti Socialiste, où j'ai adhéré en 1993, donc ça fait déjà quelques années, à une époque où c'était pas forcément très simple non plus, et où finalement, vous voyez, on est toujours là.
Alors justement, je vous remercie pour la transition, elle est merveilleuse. Le Parti Socialiste, c'était pas simple en 93, alors j'ai pas l'impression que ça soit devenu beaucoup plus simple aujourd'hui. Là aussi, c'est une question rituelle. Le paysage politique, il a un petit peu explosé, là, autour de l'élection d'Emmanuel Macron. Le Parti Socialiste a fait un score peut-être historiquement faible à l'élection présidentielle. Comment voyez-vous l'avenir du Parti Socialiste ? Comment vous vous situez dans le Parti Socialiste aujourd'hui ?
Moi, ça va être très clair. Je me situe en tant qu'acteur positif et constructif. Ça, c'est absolument indispensable. Je pense que notre paysage politique, il a beaucoup évolué ces dernières années, mais pas qu'en France. Quand on voit l'élection de Trump aux États-Unis, quand on voit aussi l'extrême droite qui a pris le pouvoir au Danemark, quand on voit le Brexit de la Grande-Bretagne, ça permet de s'interroger. Puis quand on a vu les élections présidentielles avec une campagne, mais J'en ai jamais vu des comme ça de campagne, avec toujours, c'est toujours le troisième qui a gagné, non pas le premier ni le deuxième, c'est pas du tout les partis qu'on attendait, mais avec des affaires aussi, au moins de moralité, je veux pas parler d'affaires judiciaires, mais au moins des affaires de moralité, et qui continuent aujourd'hui, et qui continuent avec d'autres personnages. Eh bien, ma foi, la seule chose que je trouve dommage, c'est que on fasse maintenant des élections législatives très très proches des élections présidentielles. Je pense que le public avait besoin de souffler un peu, et cette proximité de campagne électorale, je pense que ça nuit à la clarté des débats et à la clarté des positions des uns et des autres. Moi, je reste, c'est clair et net, Parti Socialiste. J'aurais pu rejoindre En Marche, pourquoi pas, mais je n'ai pas voulu quitter le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a fait un score épouvantablement bas, moi je le considère comme ça, mais le Parti Socialiste n'est pas mort, et il y a des gens qui le représentent, certains plus ou moins bien, certains peut-être un peu trop à gauche, et on se demande même s'ils ne devraient pas aller dans un autre parti un peu plus d'extrême gauche, mais je pense qu'il faut qu'on reconstruise,
vous parlez de
il
Benoît
faut qu'on
Hamon.
Soit positif. Exactement.
D'accord.
Si je peux compléter, je suis moi aussi fier de porter les valeurs du Parti Socialiste, et à ce titre, j'espère, comme Joël l'a un petit peu dit, qu'on va clarifier. Alors le temps, c'est pas celui-là. Aujourd'hui, on est dans la campagne des législatives et dans la suite de l'élection présidentielle. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'au sein de ce parti, on clarifie les choses et que effectivement, on sache quelle est notre ligne directrice conductrice, et que ceux qui composent le Parti Socialiste aient une relative unité de vue de la manière dont on entend faire appliquer les valeurs du PS et du Parti Socialiste. Mais moi, je suis profondément et intimement socialiste comme Joël, et c'est à ce titre que effectivement on a notre candidature sous l'étiquette Parti Socialiste qu'on assume pleinement.
Donc j'entends, soutenu par le PRG.
Aussi, oui. Donc j'entends, Madame Villiers, dans ce que vous nous dites, que vous, si vous êtes élu député de nouveau, vous serez dans une intelligence d'action avec Emmanuel Macron.
Ah, tout à fait. Moi, je vais être constructive. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours lutté contre l'extrême droite. On a toujours dit que l'extrême droite était à nos portes. Si demain, enfin, si dans 5 ans, le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas une réussite, je ne demande pas une réussite totale, mais au moins une réussite partielle, le Front National demain ne sera pas à nos portes, il sera à l'intérieur de nos maisons. Et ça, je n'en veux pas. Donc, je souhaite que ce quinquennat soit réussi, et je souhaite y prendre ma part en étant extrêmement vigilante. Parce qu'il y a des mesures, je dois le reconnaître, qui me plaisent bien, que je pourrais voter sans aucune difficulté, et d'autres sur lesquelles je porterai des amendements parce qu'elles ne me conviennent pas en l'état.
Et donc, si vous êtes élu, effectivement, une participation à l'action constructive d'un gouvernement, mais avec l'idée d'une possibilité de gouverner avec une sorte de front républicain autour d'Emmanuel Macron.
C'est exactement ça.
Oui. C'est ça. Très bien. Alors allons un petit peu plus justement dans le fond des choses. Vous parlez d'amender des lois, vous parlez de choses qui ne vous conviendraient ou qui ne vous conviendraient pas forcément tout à fait. Allons un petit peu plus avant. La question qui a été vraiment d'actualité autour de toutes ces péripéties électorales ces derniers mois, c'est la question européenne. Vous avez parlé du Brexit tout à l'heure. Certains candidats de la présidentielle parlaient de Frexit. Quelle est votre vision de l'Europe, des institutions européennes telles qu'elles sont aujourd'hui, et de nos capacités économiques, finalement, à continuer à développer notre pays?
L'Europe, pour moi, est absolument indispensable. N'oublions pas que l'Europe a été construite après la guerre. C'est quand même l'Europe qui nous a permis de ne pas avoir des conflits armés sur notre territoire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, des conflits armés, mais sur notre territoire, c'est grâce à l'Europe qu'on a pu arriver à une paix un peu durable. Par contre, l'Europe aujourd'hui, elle ne fonctionne pas telle que je le souhaiterais. Elle permet quand même d'avoir, et ça il faut le reconnaître, c'est chapeau à François Hollande, parce que c'est lui qui a construit une politique européenne, bien évidemment, avec l'Allemagne et avec les autres pays européens, pour les grands investissements européens. Et ça, il y a quand même quelques milliards qui ont été posés pour l'Europe, pour nous permettre ces grands projets qui vont faire partie aussi de l'économie française. Pour moi, il n'est pas question de remettre l'Europe en cause, il est question de remettre quand même en cause un certain nombre d'institutions à l'intérieur de l'Europe, faire un peu plus de démocratie, entendre un peu mieux les pays qui la composent.
Qu'est-ce qu'il faut à l'économie française si on entend, par exemple, la campagne des Républicains? Le quinquennat de François Hollande a été absolument catastrophique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Pas du tout, pas du tout. Vous savez, un quinquennat, c'est trop court. Quand François Hollande est arrivé aux manettes de la France en 2012, la situation là était catastrophique et tous les économistes le reconnaissent d'ailleurs. Alors, ils le disent pas forcément sur toutes les ondes, mais tous les économistes de droite et de gauche le reconnaissent que 2012, ça a été une année catastrophique. Pas forcément de la faute de Nicolas Sarkozy, sans doute un peu, mais il y a eu quand même la crise économique de 2008 qui est venue frapper en plein cœur la France et il a bien fallu faire avec. Néanmoins, aujourd'hui, on peut dire que Emmanuel Macron a la chance d'avoir une France qui a quand même des résultats économiques et une situation économique un peu meilleure que celle que François Hollande a découvert en 2012. Alors, on n'a pas su faire le bilan en 2012. Il aurait fallu faire un vrai bilan, une vraie évaluation des difficultés qu'avait la France. Aujourd'hui, en 2017, eh bien Emmanuel Macron trouve une France quand même économiquement apaisée avec tous les indicateurs ouverts, mais il est vrai que 5 ans, ça ne suffit pas pour avoir les résultats qu'on aurait voulu. Mais les résultats viennent maintenant, petit à petit, on les voit, le BTP va mieux, les écoliers qui sortent, enfin les jeunes qui sortent de l'école, avant on disait qu'il y en avait 150 000 qui sortaient de l'école sans diplôme, sans formation, c'est baissé à 80 000. On en parle beaucoup ça ? Mais non, pas du tout. On parle souvent trop de ce qui va pas bien, mais pas de ce qui va bien.
Donc finalement, pour vous, c'est une situation qui est en train de s'améliorer, c'est juste une question de calendrier, c'est le prochain gouvernement qui va en profiter.
C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça.
Mais dans le bien comme dans le mal, hein, dans le bien comme dans le mal, je pense que 5 ans, c'est pas suffisant. Moi, je reviendrai bien au septennat. Là, on fait nos preuves en 7 ans.
Alors, quelles sont les principales mesures économiques que vous pourriez soutenir? Est-ce que, par exemple, vous êtes d'accord avec l'idée d'Emmanuel Macron que le Code du travail est responsable de beaucoup de choses et qu'il faut le changer et à tout prix très vite par ordonnance?
Alors, c'est pas le contenu du Code du travail qui me gêne, c'est l'ordonnance qui me gêne. L'ordonnance, n'oublions pas que ça enlève tout débat, que ça enlève toute démocratie au peuple et à ses représentants. Les ordonnances, le gouvernement demande au Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnance. Quand on a la majorité, évidemment, ça sera oui. Et puis ensuite, le texte est prêt, on le passe à l'Assemblée nationale à nouveau, l'Assemblée nationale qui dira oui, sans aucun débat, sans amendement. Et ça, je trouve que quand on se met le champion d'une nouvelle démocratie, je pense qu'on fait un peu l'inverse de ce qu'on promet. Donc, sur les ordonnances, je suis extrêmement claire, je suis contre les ordonnances, je voterai contre les ordonnances. En revanche, dans les mesures qui sont proposées, il y a des mesures sur lesquelles on peut discuter. On a des partenaires sociaux avec lesquels on peut discuter. Il y a des syndicats qui sont extrêmement progressistes. Et je crois que là se tient toute la matière de ce que sera demain le droit du travail.
Si je peux me permettre pour compléter ce que vient de dire Joël. Effectivement, on a en France des corps intermédiaires. C'est comme ça que voilà, ils s'appellent. Et ils doivent jouer leur rôle et pleinement leur rôle. Et dans le mandat de François Hollande, c'est justement ce qui a été fait. C'est-à-dire que quand il y avait une réforme au niveau du Code du travail, les partenaires sociaux, les organisations syndicales, tant patronales que salariales, étaient consultés, ont joué leur rôle, ont essayé de faire évoluer les textes. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'était vraiment un revirement par rapport à ce qui s'était produit dans le quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy. Donc demain, il faut que Emmanuel Macron poursuive dans ce sens et n'oublie pas effectivement que les corps intermédiaires ont leur rôle à jouer, il faut les écouter et la représentation nationale à travers les députés et les sénateurs aussi.
Généralement, les gouvernants s'en aperçoivent vite, c'est-à-dire que le code du travail modifié par ordonnance l'été, c'est à peu près l'assurance d'avoir des rues remplies à l'automne. Donc, en tout cas, contre ce principe d'ordonnance, d'autres mesures économiques qui vous paraissent importantes, hein.
La CSG, je vais dire celles qui ne me plaisent pas, bien évidemment. Je ne vais pas parler de celles qui pourraient éventuellement me plaire, puisqu'on a quand même peu de temps dans cette émission. Oui. Mais la CSG m'embête un peu. Alors, j'aimerais bien avoir un impact, les impacts financiers de cette mesure. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose une CSG quasiment pour tout le monde, bien qu'on ait entendu dans certains débats que pour les retraités, ça serait à partir de 1 200 euros par mois. Qu'en dessous, il ne paierait pas une augmentation de CSG. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça veut dire qu'à partir de 1200 euros par mois, on considère que les gens peuvent payer encore plus de cotisations. Moi, j'en suis pas sûre, franchement. Aujourd'hui, on a une population au niveau démographique extrêmement importante avec une espérance de vie qui progresse, donc extrêmement importante au niveau des personnes âgées. Les toucher de façon aussi dure que celle-ci ne me paraît pas extrêmement satisfaisante. Donc, sur la CSG, j'émets un rejet pour l'instant, avant de connaître les tenants et les aboutissants de cet élément. Autre chose, la taxe d'habitation. Suppression de la taxe d'habitation pour 80% des personnes. On va dire, c'est bien, ça fait un pouvoir d'achat supplémentaire. Pouvoir d'achat supplémentaire, oui, mais comment les collectivités locales vont-elles tourner alors qu'on sait qu'une partie de leurs recettes provient de la taxe d'habitation? Ça veut dire qu'elles vont augmenter les impôts par ailleurs, les taxes foncières? Où on va faire moins de choses, où on veut augmenter carrément les impôts sur le revenu. Il y a des choses que je ne comprends pas dans la logique. Alors, j'aimerais bien aller un peu plus loin, aller voir directement les projets de loi pour pouvoir vraiment me prononcer sur des éléments concrets. Mais là, il y a des idées qui me paraissent un peu difficiles. Des bonnes idées aussi. Je vais parler du chômage. Le chômage qui serait adapté aussi... qui serait applicable aussi aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs. Ça me paraît très bien. Ce qui me paraît moins bien, c'est d'en faire une espèce de prestation d'État. C'est-à-dire, là encore, on fait fi des partenaires sociaux. Tout serait géré au niveau de l'État. Est-ce qu'il faut tout étatiser? Je trouve ça un peu dommage de tout étatiser et de vraiment laisser de côté les partenaires sociaux.
Les organismes avec des parités, chez les organismes, chez les partenaires sociaux, sont des garants de l'équilibre démocratique, généralement, oui.
Voilà.
D'accord. Alors, effectivement, vous le disiez, le temps passe très, 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 très vite, malheureusement. Un petit mot sur l'écologie, sur l'environnement, les accords de Paris, la COP21, les États-Unis qui souhaitent s'en retirer.
Oui, bah écoutez, moi je vais suivre ce qu'a dit Nicolas Hulot ce matin. Tout simplement, il a dit que c'est peut-être une chance pour faire vraiment vivre cette COP21. Effectivement, je pense que l'attitude de Donald Trump a fait réagir tous les autres pays du monde. Et je pense que tout le monde va se dépêcher de prouver qu'il a tort et justement mettre en place toutes les mesures nécessaires pour qu'on vive un peu mieux avec une atmosphère un peu plus transparente et un peu plus saine, en tout cas pour nous et pour nos enfants, parce que c'est l'avenir du monde entier.
J'en profite, puisque vous êtes, Monsieur Girard, dans les organismes des chambres d'agriculteurs, etc. Écologie et agriculture, ça fait bon ménage dans notre territoire.
Je crois que Stéphane Le Foll avait entamé quelque chose qui était justement qui allait dans ce sens avec l'agroécologie. Et je pense que les agriculteurs ont conscience qu'il faut évoluer dans leurs pratiques, même si c'est pas toujours évident, même s'il y a des contraintes, mais voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a là un travail à poursuivre qui a été formidablement bien entamé par Stéphane Le Foll, je le répète. Là encore, on s'en apercevra beaucoup trop tard. C'est comme toujours dans les mesures qui impactent les citoyens. Mais l'agroécologie a un avenir où on peut l'appeler de différentes manières, puisque il y a différentes formulations sur le sujet, mais on ne peut que tous être favorables et être attentifs à ce que l'agriculture évolue dans ce sens-là.
Avec un accompagnement particulier, peut-être pour les agriculteurs, on sait que c'est un secteur où il y a une grande désespérance actuellement.
Il y a une crise profonde, malheureusement, qui dure, qui devient structurelle. Il y a des défis pour retrouver de la compétitivité dans le monde agricole et il faut que tous les acteurs de l'agriculture, quels qu'ils soient, pas seulement les agriculteurs et les exploitants agricoles, parce qu'on oublie qu'autour de l'agriculture, il y a aussi des salariés qui sont nombreux et d'autres, des industries de transformation. Il faut que tout le monde aille dans le sens d'une évolution et d'une réflexion pour que l'économie agricole et tout ce qui va autour retrouve de la compétitivité très vite.
Il nous reste une minute. Allez, est-ce que vous avez envie de valoriser l'une de vos idées plus qu'une autre pour conclure?
Moi, j'ai deux idées pour conclure. Il faut absolument qu'on valorise justement la jeunesse. Et la jeunesse, ça se valorise par la formation initiale, la formation professionnelle pour qu'ils trouvent du boulot. Ça, c'est absolument indispensable qu'on les valorise de cette façon-là. Et puis, la deuxième idée, c'est l'accessibilité réelle des services publics. C'est la santé qui est d'abord en premier lieu. On manque de médecins aujourd'hui en France. Il faut absolument qu'on ait des maisons de santé en nombre croissant pour permettre justement cet accès à la santé. quartiers. Et puis enfin, je pense que dans les zones rurales, on aurait bien besoin de maisons de services publics qui permettent à tout un chacun d'aller voir la sécurité sociale, d'aller voir les impôts, d'aller voir l'URSSAF, la caisse d'allocation familiale, etc. Ça, ce sont vraiment deux engagements très forts que je prends pour défendre ce territoire qui en a besoin à ce niveau-là, malgré le fait que ce soit un territoire absolument exceptionnel et que j'adore.
Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux, Madame Joëlle Huillier, Monsieur Thierry Girard. Vous êtes candidats tous deux pour les élections législatives de la 10e circonscription de l'Isère. Merci à vous.
Merci à vous.